Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, Léon XIV, lorsqu'il a été élu au mois de mai dernier, s'est présenté comme un successeur de Léon XIII, en raison de la société, et Léon XIII était un pape de société, un pape avec des encycliques sociales, et donc il s'est présenté comme étant un successeur pour les faits de société. Et on voit depuis quelques mois déjà que ce nouveau pape, effectivement, se préoccupe de la société. Et tout récemment, il a béni, à Rome, un paquet de glace, un bloc de glace qui vient du Groenland. Ce bloc de glace est historique. En effet, il a 20 000 ans. Mais pour ceux qui connaissent un peu l'anglais, Groenland, ça vient de Greenland, la terre verte. Par conséquent, le Groenland n'a pas toujours été Groenland au sens actuel, avec un paquet de glace. C'est une terre verte, sans glace. Donc déjà 20 000 ans, c'est se moquer du monde. Et puis, bénir ce paquet de glace exporté depuis ce pays lointain, bien sûr, c'est un fait de société. La terre est en grand danger, eh bien, chers frères, j'espère que vous êtes bien conscients de cela, n'est-ce pas? La terre réchauffe et bientôt on va être submergé. Fermez vos bouches et un tuba pour éviter de prendre la tasse. Bref, donc ce pape nous est présenté comme un pape éminemment social pour sauver la planète. Léon XIII ne voulait pas sauver la planète, mais bien plutôt les âmes. Et le 8 septembre 1893, il a rédigé une belle encyclique sur le rosaire. Le rosaire, avec ce point particulier, la société. Voilà ce qu'il dit dans cette belle encyclique, Laetitiae Sanctae. Je vous invite à la lire. On peut trouver sur Internet les encycliques des papes. Des mauvais, hélas, et aussi des bons. Tout est répertorié dans le site du Vatican. Il y a toutes les encycliques des papes. Et il est bon de lire ces encycliques merveilleuses. Donc, comme Léon XIV a voulu prendre comme modèle Léon XIII, 13, 14, voilà, comme un aspirateur pour la société, eh bien, allons voir, justement, Léon XIII avec cette magnifique encyclique sur la société qui est malade. Les âmes sont malades. À l'époque, on parle des âmes malades. On ne parle pas de la planète malade. Sans doute, il faut prendre soin de la création, bien évidemment. Mais cette création n'a pas d'âme. Elle est au service des âmes. Comme les animaux sont au service de l'homme et pas l'inverse. Tout est chamboulé, mis sans dessus-dessous dans notre époque bien misérable. Donc il faut revenir et répondre à ces objections qui tombent comme d'elles-mêmes. Pour autant qu'on connaisse un petit peu la doctrine catholique. Voyez-vous. Donc Léon XIII, vu l'état de la société bien malade, a voulu répondre avec non pas des choses nouvelles, mais des choses bien anciennes, en les mettant non pas au goût du jour, mais en mettant le jour au goût de la vérité. De la vérité qui ne change pas, qui ne transige pas. Et effectivement, cette encyclique du 8 septembre 1993 est une réponse aux maux de la société, aux malheurs de la société d'alors, et a fortiori pour maintenant. Il a fait, ce bon pape Léon XIII, 13 encycliques sur le rosaire. Nous voulons, dit-il, vous rappeler certains avantages très précieux, découlant de cette dévotion, le rosaire, et répondant à merveille aux circonstances actuelles des hommes et des choses. Nous sommes très persuadés, en effet, que de la récitation du Saint-Rosaire, pratiquée de façon à produire son plein effet, découleront non seulement pour les individus en particulier, mais pour toute la chose chrétienne, res publica, la chose chrétienne, la chose publique, les avantages les plus précieux. Et il est, dit-il, soucieux de la perte de la foi, du sens chrétien. Il répond, en disant « Le rosaire est une réponse adéquate aux maux présents, aux malheurs dont nous sommes affligés. Il y a, dit-il, trois causes de malheur pour les peuples, à savoir l'aversion pour la vie humble et laborieuse, l'horreur de tout ce qui fait souffrir, enfin l'oubli des biens futurs, objet de notre espérance. » Et vous avez bien compris, avec ces trois chapitres, trois têtes de chapitre, que le pape veut bien dire la réponse est triple avec le rosaire. Mystère joyeux, l'aversion pour la vie humble et laborieuse, les mystères joyeux répondent à cette aversion, l'horreur de tout ce qui fait souffrir, on n'aime pas la croix, notre Seigneur Jésus-Christ a porté sa croix, et les fruits des mystères douloureux nous aident à répondre à cette horreur de la souffrance. Et enfin, on n'aime pas les choses futures. L'homme est animal, il ne pense qu'au bien terrestre, au bien du corps. Et il oublie qu'il a une âme qui est immortelle. Les mystères glorieux répondent à cette troisième calamité, l'oubli des choses futures. Je ne peux pas tout lire de cette encyclique, mais quelques points simplement. Déjà pour ces mystères joyeux, mystères cachés, mystères tout secrets. Une perte de temps, apparemment. Notre Seigneur Jésus-Christ vient nous racheter. Il vit 33 ans et 30 ans perdus à Nazareth. On peut reprendre l'image de l'iceberg. L'iceberg, on ne voit que la petite partie qui sort de l'eau. L'essentiel est en dessous. Notre Seigneur Jésus-Christ a été comme en dessous pendant 30 ans. Invisible, caché des hommes. À part quelques épisodes de sa vie à Nazareth, à Bethléem, en Égypte. Quoi qu'on ne sache pas grand-chose de l'Égypte, on sait qu'il y est allé avec Saint-Joseph et Notre-Dame. Donc la partie cachée, invisible, partie très importante. On n'aime pas cette vie cachée en Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous répond « Aimez cette vie cachée en moi-même, dit Dieu, en moi-même, la vie cachée. » Comme dira bien l'apôtre Saint Paul, notre vie est cachée en Dieu. Eh bien, cette vie cachée à Nazareth est vraiment la source de bien du profit spirituel. Se cacher en Dieu pour apprendre les vertus que l'homme n'aime pas. L'humilité, la pauvreté, ou l'esprit de pauvreté, l'obéissance, la pureté, la recherche de Dieu en toutes circonstances, voir à travers les événements de la vie comment Dieu nous mène, il nous mène. Apparemment, nous sommes malmenés, mais il nous mène par la main. Saint Joseph, humainement parlant, a été malmené par Dieu. Il est mené par Dieu et il suit la providence sans s'inquiéter. Bien sûr, il n'est pas inactif, mais il se laisse guider par la providence et il fait bien. Et il fait bien. C'est l'homme prudent qui va agir à travers les circonstances, toutes de providence, vie cachée. On n'aime pas cette vie perdue en Dieu. Le rosaire nous y aide à chercher, à trouver Dieu, avec l'humilité de tous ces mystères si petits apparemment, mais si grands. C'est dans l'humilité que nous sommes grands aux yeux de Dieu, comme la Vierge Marie, qui à l'Annonciation dit bien « Je suis la servante du Seigneur ». Et pourtant elle est la reine, mère de Dieu, elle ne le dit pas. Mais au contraire, « Ecce ancilla Domini », je viens servir le bon Dieu. Aimons-nous servir? On aime plutôt être servi ou se servir. Ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas le chapelet, ce n'est pas la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, servir et pas se servir ou être servi. Que de leçons à travers ce seul verbe. Servir, l'humilité. Notre Seigneur Jésus-Christ servira ses apôtres. Il ira même jusqu'à laver leurs pieds. Et Saint-Pierre ne comprend pas. Il refuse même. Et Jésus lui dit, il faut que tu acceptes. Et faites-le à votre tour par la suite. Servir. Et comme dira bien Saint-Paul, servir Dieu, c'est régner. Nous voulons régner, bien sûr. Être sur un piédestal. Et c'est légitime de chercher à régner. Mais ça, c'est pour le ciel. Ici-bas, le moyen pour arriver au ciel, c'est servir. L'humilité pour un jour régner avec notre Seigneur Jésus-Christ et avec la Vierge Marie et tous les saints et tous les anges. Ensuite, il y a cette horreur de ce qui fait souffrir ici-bas. C'est les peines, les croix, les ténèbres, le brouillard, on n'aime pas cela. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, dans sa passion, nous montre comment. D'abord que la souffrance existe. Ça, l'Évangile est inutile pour savoir. Tous savent que la souffrance n'est pas exempte de la terre. Mais l'Évangile nous apprend à souffrir, à aimer la souffrance. Parce qu'à travers la souffrance, on aime notre Seigneur Jésus-Christ. Et le chapelet nous indique le moyen pour aimer, non pas la souffrance pour elle-même, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, mais pour aimer la souffrance parce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert avant nous. Et on voit comment il a souffert, avec une grande patience. Souffert, non pas pour lui, il est innocent, mais souffert pour nous, qui sommes des pécheurs. À l'agonie, il souffre sa passion, déjà. Il voit devant ses yeux, comme un film, tous nos péchés, tous mes péchés. Voyez. Saint Paul dit bien, il a souffert pour moi. La passion, c'est quelque chose de personnel, il a souffert pour moi. Et que ferais-je pour lui? Eh bien, j'offrirai moi-même mes souffrances en union avec les siennes. Le pape Léon XIII dit bien cela. Pour la grande majorité des hommes, la récompense de la vertu, de la fidélité au devoir, du travail soutenu, des obstacles surmontés, n'est plus comme il faudrait dans la paix et la liberté de l'âme. Ce qu'ils poursuivent comme perfection dernière, c'est un état chimérique de la société où il n'y aurait plus rien à endurer et où l'on goûterait à la fois toutes les jouissances terrestres. Or, il est impossible que les âmes ne soient pas souillées sous l'action de ce désir effréné des jouissances. Si elles ne vont pas jusqu'à en devenir les complètes victimes, il en résulte toujours un énervement tel que les maux de la vie venant à se faire sentir, elles fléchissent honteusement et finissent par misérablement y succomber. Voilà l'état du pécheur. Le remède, méditer les mystères douloureux. Et il montre les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi ceux de Marie. Après les exemples de Jésus, je cite l'exemple de Marie. Nous ajoutons la méditation des douleurs de la Vierge Marie, dont un glaive tranchant n'a pas seulement effleuré le cœur, mais l'a transpercé de part en part, afin qu'il devint et mérita d'être appelé la mère des douleurs. On a fêté tout récemment, le 15 septembre, il y a 15 jours à peu près, un peu plus, la fête de la Notre-Dame des Sept Douleurs. Cette mère dont Siméon avait prédit les douleurs. Un glaive de douleur transpercera votre âme. Le pape dit bien, ce glaive n'a pas effleuré l'âme. Transpercé, quelle différence entre effleuré, on a eu peur, mais il n'y a pas dedans, il y a pas de misère suite à cet effleurement du couteau ou autre chose, mais transpercé. Comprenons ce que les mots veulent dire. Ce n'est pas une image transpercée. Sans doute, elle n'est pas morte au calvaire, mais moralement, disent les saints, saint Augustin en particulier, saint Ambroise aussi, disent bien tous que Notre-Dame a eu un cœur transpercé. Et pourquoi n'est-elle pas morte? Pour nous soutenir dans nos larmes, dans nos misères, dans nos fatigues, dans nos soucis de la vie. C'est une mère qui nous porte toujours. Le pape dit bien, la leçon aussi de ces mystères douloureux, c'est une patience vertueuse. Patience vertueuse. Agir et souffrir, c'est le propre du chrétien. Car quiconque veut avoir droit à ce nom ne saurait se dispenser de suivre notre Seigneur souffrant. Il n'est pas de question, dit-il, d'être stoïque à la façon des Grecs qui souffraient sans broncher. C'est une espèce de crânerie, de beaucoup d'orgueil, le stoïcisme. Non, on souffre, on peut pleurer aussi. Notre Seigneur Jésus-Christ a pleuré à plusieurs reprises durant sa vie. Donc les larmes ne sont pas des choses ridicules. On pleure devant le péché. On pleure devant la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ et Notre-Dame. Et on compatit à leur souffrance. Mais déjà, pleurons nos péchés. Et ces pleurs de nos péchés sont bien salutaires, très méritoires. Pour autant, bien sûr, que ce soit une vraie confession de nos péchés. Enfin, l'homme oublie les biens futurs. Ceux de la terre, c'est rare qu'il les oublie. Mais ceux du ciel, quelle fantaisie, quel oubli, quelle volatilité de l'esprit humain pour les choses qui, elles, ne finiront pas. La terre, c'est comme l'ombre des biens futurs. Les hommes de nos jours, dit le pape, quoique nourris de christianisme, poursuivent de telle sorte les biens périssables de la vie présente qu'ils voudraient non seulement oublier, mais par un excès d'avilissement, effacer même le souvenir d'une patrie meilleure, dans l'éternelle béatitude, comme si saint Paul nous avait avertis en vain que nous n'avons pas ici de demeure permanente, mais que nous cherchons celle qui est à venir. Ainsi, le pape détaille ces biens présents comme étant des biens futiles, en tout cas des biens éphémères, et pour lesquels il ne faut pas attacher son cœur, mais au contraire, attacher notre cœur pour les biens qui ne finiront pas. Le sens de ces mystères glorieux, le pape nous les déclare, nous les détaille. Nous apprenons que la mort n'est pas une ruine qui ne laisse rien derrière elle, mais le passage d'une vie à une autre, et que le chemin du ciel est ouvert à tous. Le bon Dieu nous veut tous au paradis. Hélas, tous n'iront pas au paradis, parce qu'ils ne le veulent pas. Mais le bon Dieu nous veut tous au paradis. Quand nous voyons monter le Christ, nous nous rappelons sa promesse de nous préparer une place. Il l'a dit à l'Ascension. Le Saint-Rosaire nous fait souvenir qu'il y aura un temps où Dieu séchera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de deuil, de gémissement, ni aucune douleur. Nous serons toujours avec le Seigneur, semblables à Dieu, parce qu'on le verra tel qu'il est. enivré du torrent de ses délices, concitoyen du ciel, en conséquence de la bienheureuse Vierge, notre Mère, qui nous console à travers les larmes d'ici-bas en nous disant de ne pas nous inquiéter. Outre mesure, il y a un ciel où la joie sera parfaite. Ici-bas, nos joies ne sont pas parfaites. Elles sont toujours mélangées de peine. Même les joies les plus merveilleuses. Deux amis qui se rencontrent un jour et qui voudraient ne plus se quitter. Mais il faut rentrer à la maison. Par conséquent, il faut se séparer. Une joie, mais éphémère. Au ciel, ces joies seront pour toujours, dans un instant présent, car il n'y aura plus de passé, de futur, mais le présent qui ne finira pas. C'est là l'éternité. Et cette joie sera parfaite. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a promise à ses apôtres. Votre joie sera parfaite. On n'a pas l'idée, on n'a pas la perception de ce que veut dire parfait. Parce qu'on est imparfait, on est limité. Mais croyons à ces paroles. La parole de Dieu, elle est infaillible et efficace. Croyons, ayons foi, mes bien chers frères, dans la parole du bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez comme le chapelet, le rosaire, vous le savez déjà, mais il est bon de le rappeler au mois d'octobre. Il est bon de rappeler ses vérités et réciter son chapelet avec un regard nouveau, rajeuni, je dirais. Purifions nos yeux, surtout les yeux de la foi, pour voir le bon Dieu tel qu'il est, le méditer à travers ses mystères joyeux, douloureux et glorieux. Et la Vierge Marie nous accompagne comme une maman qui, puisque son fils, sa fille, ne sait pas marcher, elle le prend par la main et la conduit quelque part. Ce quelque part, c'est Jésus. On dit bien à Jésus par Marie. On ne va pas à Jésus par lui tout seul. Il a voulu venir ici-bas par Marie. Il veut que nous revenions à lui, que nous allions à lui par Marie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.